Pour faire la liaison avec ce qui vient d'être dit, pour moi, le cinéma de Kramer, qui n'est pas un cinéma extrêmement diffusé, il faut bien le dire, et alors sûrement pas les vidéos, je pense qu'il n'est même pas impossible que certaines des vidéos qu'on projettera grâce à vous soient quasiment, extrêmement rarement vues. Oui. Et je pense que ce cinéma est un cinéma d'une grande rigueur, qui pour moi est en accord avec, disons, ce qu'on peut tirer, par exemple, de la philosophie de Benjamin en matière de conduite, comme je dis parfois, artistique. Comment se conduire avec les appareils d'enregistrement? Je pense que le cinéma de Kramer en est un exemple extrêmement intéressant. Alors je voulais ce soir essayer de faire en même temps trois choses, un petit peu, comment dire, alerté, paraît-il, par la difficulté des propos de la fois précédente, et puis aussi parce qu'il y avait quand même un petit cycle de trois séances. Je me disais que je pouvais peut-être reprendre en le reformulant, c'est-à-dire en traduisant de nouveau, hein, parce que j'ai placé tout ça sous l'auspice d'une traduction de Benjamin, plutôt que d'une présentation qui se voudrait fidèle, ou pédagogique, si vous voulez. Je pense que c'est conforme aussi à ce que lui-même faisait. Donc j'avais placé tout cet ensemble sous l'auspice d'une traduction. Je voudrais traduire peut-être encore une fois certains des propos des deux séances précédentes, en même temps les regrouper. Et puis je voulais aborder encore deux petits passages, ou accrocher des réflexions, si vous voulez, à deux petits passages de Benjamin. L'un qui termine l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, et dans lequel Benjamin évoque le fait que les guerres sont toujours des façons de répondre, dans une certaine mesure, à des avancées techniques, hein, éventuellement pour dépenser, si j'ose dire, dans des gestes radicaux, une technique qui ne parvient pas à être assumée par ailleurs, par la culture. Et puis je voulais aussi, vous verrez ça dans quelques minutes, faire allusion à un petit propos de Benjamin qui apparaît pour la première fois dans un texte qu'il a intitulé « Expérience et pauvreté », dans lequel il dit « Nous sommes devenus », en évoquant l'histoire des hommes qui sont revenus muets du front, c'est une expression de lui, sont revenus muets du front de la Première Guerre mondiale. Mais il commente cette expérience, ce mutisme des soldats de la Première Guerre mondiale en évoquant l'industrialisation, hein, qui avait commencé bien auparavant et qui s'est poursuivie pendant cette guerre. Et il donne cette phrase: nous sommes devenus pauvres en expérience communicable. Expression qu'il reprend dans un autre texte publié quelque temps plus tard, consacré au conte et à la disparition du conte, de la structure du conte dans la culture, structure du conte ou importance du conte qui est d'une certaine manière évacuée par l'avancée de la presse, autre technique de la reproduction. Et il évoque aussi, donc, à ce moment-là, il reprend à ce moment-là cette petite phrase: nous sommes devenus pauvres en expérience communicable. Donc je voudrais terminer, d'une certaine manière, les trois rencontres consacrées à Benjamin, sous cette expression titre ici et là, par un commentaire de cette phrase-là. Peut-être avant, donc, reprendre, peut-être en deux temps, si vous voulez, ce que j'ai essayé de proposer dans les séances précédentes, que je formulerai de la manière suivante. Nous avons vu, premièrement, qu'il y a eu, depuis la photographie, hein, depuis que nous avons, d'une certaine manière, aimé la photographie, en tout cas que nous l'avons installée dans nos pratiques et dans nos goûts, il y a eu, pourrait-on dire, dans un vocabulaire qui traduit Benjamin, qui n'est pas le sien, mais on pourrait dire époque, ça c'est son vocabulaire, époque de l'être au monde, ça c'est la traduction que je propose. Dans le être au monde, j'en avais parlé la première fois, je souligne la petite expression « a », « o », « être », « a », Hein, le fait que nous sommes, nous les humains, des êtres à quelque chose. Nous sommes, nous nous rapportons à quelque chose. Par exemple, nous nous rapportons à des milieux, nous nous rapportons les uns aux autres. Nous ne sommes pas des blocs fermés sur eux-mêmes. Nous sommes donc des êtres ouverts. Ou en principe, nous sommes des êtres ouverts. Mais peut-être sommes-nous des êtres ouverts selon des époques, hein, c'est-à-dire selon des formes, selon des modes qui ont une histoire. Donc on pourrait considérer, par exemple, que la photographie aura été, et d'une manière générale, les appareils d'enregistrement auront été une manière de nous ouvrir au monde, de nous faire un monde, et de former notre rapport au monde. Alors, on peut être très concret et dire, par exemple, évidemment, le rapport à la distance, à l'espace-temps, mais à la distance en particulier, la façon de vivre le proche et le lointain, le près et le loin, d'être qui connaissent la photographie n'est pas le même que celui d'être qui ne la connaissent pas. J'avais proposé de traduire avec l'expérience du téléphone. L'expérience d'être loin les uns des autres n'est pas la même à l'époque du téléphone et à une époque qui ne connaît pas le téléphone. Voyez. Donc, il y a des époques de l'être au monde. Voilà. Ces époques de l'être au monde, elles sont liées pour Benjamin à des appareils, ce que j'appelle des appareils, disons à des dispositions techniques avec lesquelles diverses conduites sont possibles, plus ou moins authentiques, hein. Plus ou moins, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas tout à fait la bonne expression, je vais y revenir, conscientes d'elles-mêmes dans leur pratique ou dans leur usage. À l'époque de la photographie, ou depuis la photographie, ce qui fait époque, précisément, pour Walter Benjamin, c'est qu'il y a quelque chose que l'analyse même de ce que c'est que faire une photographie ou être pris en photographie, comme on a vu la fois précédente, à l'époque de la photographie, depuis l'époque de la photographie, il y a comme une séparation de l'esprit, dont je voudrais parler un petit peu ce soir. Il y a comme une séparation de l'esprit. Ça veut dire que la forme de notre lien au monde, la forme de notre rapport aux choses, aux objets, aux sites, aux autres, hein, la forme de notre rapport au monde en général n'est pas nécessairement, n'est pas absolument, n'est peut-être pas essentiellement vécue. En tout cas, une part essentielle et structurante de notre lien au monde n'est pas de l'ordre de ce que nous pouvons éprouver comme vécu. C'est-à-dire, finalement, on peut dire ça comme ça, nous n'avons pas d'expérience vécue de tout ce qui nous arrive, et pourtant, dans tout ce qui nous arrive que nous ne vivons pas véritablement, beaucoup de choses nous concernent et nous déterminent. L'expérience est double. L'expérience qui nous caractérise est double, elle est à la fois vécue et elle est à la fois enregistrée. Voilà. Je suis à la fois ce que j'éprouve moi-même de ma vie, avec une structure subjective, si vous voulez, qui est traditionnelle, mais je suis en même temps un être qui échappe à son propre vécu, par exemple, par toutes les traces documentaires qui le concerne, qu'il ne vit pas à proprement parler et qui cependant le constitue. En conséquence, et c'est le deuxième point que je rappellerai pour essayer de lancer petit à petit le problème spécifique de la soirée, en conséquence, la conscience, c'est ce que j'essayais de dire la semaine dernière, assez difficilement, il y a 15 jours, la conscience ne s'inscrit pas nécessairement. Il faut soumettre cette hypothèse au philosophe. La conscience ne s'inscrit pas nécessairement dans l'expérience d'un sujet qui est au fait de son expérience. C'est-à-dire, j'avais essayé d'évoquer ça la dernière fois, le fait finalement que la conscience est peut-être un moment dans lequel justement le sujet se trouve désemparé par rapport à ses formes de maîtrise du monde et de l'expérience. La conscience apparaît, au fond, lorsque, d'une certaine manière, le sujet est saisi. Alors là aussi, on pourrait avoir une version extrêmement simplifiée de ça. C'est cette espèce de saisissement qui peut nous saisir nous-mêmes à l'occasion d'une photographie de nous-mêmes dans laquelle précisément nous ne nous reconnaissons pas. Hein, et c'est-à-dire une photographie que nous ne vivons pas comme une photographie de nous, hein, et qui va nous amener à dire « Ah, c'est moi, ça hein, !» Évidemment, ce « Ah, c'est moi » est un moment de conscience dans lequel précisément la conscience se définit par le fait que le sujet ne s'y retrouve pas, hein, ou quelque chose de ce type-là. L'être au monde, je l'ai dit autrement, il y a 15 jours, et ça correspondrait davantage au vocabulaire de Benjamin, l'être au monde de l'époque de la reproduction est caractérisé par le choc. Ce que Benjamin aura appelé maintes fois, hein, dans nombre de textes, le choc, qui n'est même pas essentiellement chez Benjamin un heurt. Le choc se caractérise par le fait que le sujet contemporain ne fait pas face, ne peut pas faire face à ce qui le concerne. Il est enregistré maintes fois, de diverses manières, il est hors de lui, il est objet de coups optiques, hein, par exemple dans les prises de vue, dans le filmage, il est objet de coups optiques. Et finalement, il est peut-être, on peut dire nous sommes davantage objets de coups de cette nature, de coups optiques, plutôt que de regards au sens traditionnel du terme. Hein. J'avais essayé d'expliquer ça, qu'au fond, si on analyse ce que c'est qu'une opération photographique, bien entendu, le photographe regarde son modèle, mais au moment où la photo se fait, le fait de la photo est absente, le regard réciproque du photographe et de son modèle. Hein, la photographie se fait dans une absence, une sorte d'absence du regard réciproque. Benjamin s'est beaucoup intéressé à cette expérience qu'on peut, encore une fois, généraliser. Hein. D'une certaine manière, dans l'expérience de la photographie, le photographe et son modèle savent qu'il y a cet absentement. Ils y sont, et des témoignages autour de cette expérience peuvent éventuellement se constituer. Mais la plupart du temps, nous sommes dans cette situation sans pouvoir reconstituer autour de cette façon dont les appareils nous font échapper à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas reconstituer le moment de cette échappée. Donc, j'ai été pris en vue maintes fois malgré moi. De moi, il se fait des traces, par exemple tout de suite dans cet enregistrement, finalement malgré moi, hein, etc. Donc nous sommes dans l'époque de la reproduction sous le coup, on pourrait dire, coups qui ne sont jamais des coups physiques, si vous voulez, hein, nous sommes sous le coup d'une échappée à nous-mêmes, nous sommes sous le coup de nous absenter finalement de notre propre vécu, et cette absence nous constitue fortement, si vous voulez, structurellement notre lien au monde et même notre lien les uns aux autres. Alors on serait tenté, sur la base d'une philosophie que je qualifierais d'humaniste, hein, qui évidemment apparaît toujours comme un recours, sur la base d'une philosophie humaniste du sujet, une philosophie traditionnelle du sujet, on serait tenté de proposer quelque chose devant cette avancée de l'époque de la reproduction, on serait tenté de proposer quelque chose comme un pas en arrière, hein, dire mais... Il faut arrêter avec tout ça. Voilà. Il faut revenir à une expérience traditionnelle du sujet qui est au fait de l'expérience ou qui peut être au fait de l'expérience. Mais outre que, c'est ce que j'essayais de dire lors de la toute première séance, en même temps que nous souhaitons parfois ce retour en arrière, en même temps nous ne le voulons pas, nous ne le préférons pas, hein, la preuve... la photographie s'est répandue parmi nous et nous y goûtons volontiers. Hein. Donc, outre que peut-être c'est une c'est une tentation excessive, si vous voulez, par rapport à nos pratiques réelles. C'est de toute façon pas ce que Walter Benjamin, pour parler de lui, aura proposé. La proposition de Benjamin tourne autour de cette façon, si vous voulez, de poser la question qui serait comment pouvons-nous être au monde avec les appareils et non pas contre eux, hein. Comment pouvons-nous, autrement dit, envisager un bonheur d'époque, un bonheur de cette époque-là? Comment pouvons-nous être avec les appareils d'époque sans restaurer un être au monde, une façon d'être qui soit d'avant? Comment pouvons-nous être au monde aujourd'hui sans nostalgie? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être au monde aujourd'hui sans, je dirais, mentalement, d'abord, de fait, ensuite, faire la guerre à tous ces appareils qui progressent parmi nous? Comment est-ce que nous pouvons être au monde sans faire la guerre aux avancées techniques? C'est-à-dire, comment on peut les goûter? Voilà. Comment est-ce qu'on peut les goûter positivement? Comment est-ce qu'on peut assumer l'être au monde qu'elle nous constitue? Ça serait la question, si vous voulez, ça serait la question dans sa première formulation à laquelle les précédentes séances nous avaient fait parvenir. Alors je vous propose ce soir de reformuler un petit peu cette question en disant, par exemple, que ce qui peut être intéressant dans la lecture de Benjamin, c'est de se demander comment, et c'est d'y trouver, si vous voulez, les ressources pour éviter de nier ou de dénier, comme on le fait beaucoup, le fait que nous vivons doublés, que nous vivons enregistrés. Donc, la grande difficulté peut-être de l'époque contemporaine, la grande difficulté de la culture, c'est de nous proposer, si vous voulez, des concepts, de nous proposer des notions, de nous proposer des mots, un vocabulaire avec lequel nous pouvons décrire ce qui nous arrive autrement que sur un mode négatif. Autrement que, donc, en le niant ou en le déniant. Alors, en fait, l'exclusion de la dénégation des avancées techniques, hein, c'est une formule un peu compliquée, hein, ne pas nier l'avancée technique, d'une certaine manière, cela va de soi au niveau des pratiques individuelles. Cela va de soi que nous nous arrangeons tous les jours avec les photographies, nous nous arrangeons tous les jours de fait avec notre identité enregistrée, hein, avec le fait que ce qui définit, c'est une traduction ou une conséquence de ce que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, la définition de l'identité aujourd'hui, elle se fonde pas sur l'expérience vécue du sujet. Il suffit pas que vous déclariez « je suis un tel habitant ceci », j'en témoigne moi-même, par ma propre parole. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour exister, il faut des papiers. Hein? C'est-à-dire, il faut... Et le fait que nous réclamions, vous voyez de quoi je parle très, très contemporainement, le fait que nous réclamions pour être de plein pied les uns avec les autres dans le monde d'aujourd'hui, et pour tous, des papiers d'identité, ce qui est quand même une innovation historique, hein. Il faut quand même mesurer par rapport à l'échelle de l'histoire humaine ce que ça veut dire. Le fait que nous réclamions ça aujourd'hui signifie que nous avons adopté la dualité de l'être au monde dont j'essayais de vous parler de façon abstraite il y a quelques minutes. Nous l'avons adopté, c'est-à-dire nous nous accordons sur le fait que pour être quelqu'un parmi les autres, hein, quelqu'un qui a une existence, si vous voulez, reconnue, il ne suffit pas que nous nous rencontrions les uns les autres pour témoigner de nos expériences vécues. Il faut que ces expériences soient enregistrées, par exemple, sur des papiers d'identité, hein, papiers sur lesquels, comme vous savez, au moins jusqu'à aujourd'hui, interviennent, tout ça sont des choses sur lesquelles Benjamin a beaucoup réfléchi, interviennent des photos d'identité. Que la photographie, dans la définition de l'identité aujourd'hui, joue un rôle évidemment extrêmement important. Donc vous voyez, on s'arrange, nous nous arrangeons avec cette expérience de l'enregistrement, y compris donc au niveau de la définition et de l'adoption de toute une série de pratiques concernant notre identité. Nous réclamons même aujourd'hui de ne pas vivre sans papier d'identité, c'est-à-dire sans cet enregistrement. C'est tout ça qui montre que l'époque de la reproduction, au fond, est passée. Voilà. Comme on pourrait dire est passée, comme on peut dire, à quelqu'un, ou par exemple un enfant qui a du mal à manger, on peut dire, mais ça passe, voilà, c'est passé, vous voyez, c'est avalé, quoi, c'est, ça nous constitue, c'est assimilé par nous. Donc énormément d'analyses pratiques montrent que l'époque de la reproduction est passée parmi nous, que nous l'avons assimilé ou que nous nous y sommes assimilés, ou qu'elle nous a assimilés, prenez les choses dans tous les sens, mais j'insiste encore une fois, dans nombre de cas, avec goût, en y apportant, quoi que nous disions par ailleurs, quand nous nous replions sur des moments humanistes, nous avons adopté toutes ces pratiques. L'époque de la reproduction est passée, nous sommes passés à cette époque. Ça y est, nous sommes passés à cette époque. Tout cela définit ce que, pour ma part, j'appelle le commun de l'époque. Il y a un commun de l'époque, c'est pas un mot de Benjamin, mais c'est un mot que j'ai proposé toujours dans l'opération, si vous voulez, de traduction. Ça constitue notre commun. L'époque de la reproduction constitue notre commun, nos pratiques quotidiennes, c'est à peine des valeurs. Ce sont pas des valeurs proclamées, ce sont des valeurs pratiquées. Ça constitue le commun de l'époque. Le problème sur lequel je propose, si vous voulez, que nous dissertions un petit peu ce soir, éventuellement que nous discutions tout à l'heure. Donc le problème, c'est pas à ce niveau-là qu'il se pose, au niveau de la, si vous voulez, de la constitution ou la définition de ce que je viens d'appeler le commun de l'époque. Le problème, il se pose au niveau de ce qu'on pourrait appeler la communauté, c'est-à-dire la façon d'identifier le commun. La façon de, non pas d'être commun les uns pour les autres, vivant dans le même monde où la reproduction est passée, comme je viens de dire, mais peut-être de nous représenter, je vais revenir sur ce terme en conclusion de mon propos ce soir, de nous représenter ce commun. Peut-être pour aller très très vite, si vous voulez, à la conclusion du propos auquel je voudrais vous amener petit à petit, la difficulté dans laquelle probablement nous sommes, dont Benjamin a vu dans les années 30 la constitution, mais qui continue, à mon avis, à nous occuper aujourd'hui, le problème dans lequel nous sommes, ça n'est pas, si vous voulez, de nous faire au monde comme il est, nous y sommes faits, nous nous y sommes faits. Le problème, c'est de nous représenter ce phénomène, cette adoption de la reproduction, c'est-à-dire peut-être de développer des pratiques de représentation, donc ça concerne l'arme, ça concerne aussi, je vais y venir, la politique, de développer des pratiques de représentation qui soient à jour avec le commun de l'époque. Et peut-être y a-t-il problème dans la mesure précisément où, au fond, les formes de représentation, qu'elles soient, si vous voulez, poétiques, artistiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture, ou qu'elles soient politiques, peut-être ces formes-là sont-elles des formes qui, elles, ne se sont pas faites à l'époque. Voilà. Qui, elles, n'ont pas adopté, au fond, les structures de l'être au monde propres à l'époque. Je vais essayer d'en donner, évidemment, quelques commentaires ou quelques illustrations. Alors c'est là où il faut placer, je crois, la petite phrase que j'évoquais en introduction tout à l'heure de Benjamin, « Nous sommes devenus pauvres en expérience communicable. » Alors, moi, je propose de lire ou d'interpréter cette phrase en la séparant bien en séparant bien les deux termes qui la terminent. Benjamin ne dit pas « nous sommes devenus pauvres en expérience ». Il ne dit pas « les humains ». Alors, la date de ce début, si j'ose dire, du devenir pauvre en expérience communicable, ça serait la fin du 19e si on replaçait longuement cette phrase dans le contexte où elle apparaît chez Benjamin. Mais donc ça date pas de l'immédiate période, si vous voulez. C'est un problème qui doit s'analyser sur une relativement longue période historique. Mais donc il dit pas nous sommes devenus pauvres. Il dit pas nous sommes devenus pauvres en expérience. Il dit pas nous sommes devenus pauvres. De toute façon, il dit pas nous sommes devenus pauvres en expérience. Disons depuis le 19e siècle, c'est-à-dire depuis l'industrialisation ou depuis l'installation de la photographie dans la culture. Non, il dit « nous sommes devenus pauvres en expérience communicable ». Le problème qui nous affecte, c'est celui de la communicabilité, hein, qu'il ne faut pas tout à fait confondre avec celui de la communication. Je ne sais pas si j'arriverai à clarifier cette affaire dans les quelques minutes que nous avons devant nous, mais on pourrait très bien imaginer une société qui soit au fond paradoxalement riche en pratiques de communication et dans laquelle nous soyons pauvres en expérience communicable. C'est-à-dire que, au fond, la communicabilité de nos expériences ne soit pas mise en œuvre, mise en jeu dans ce qu'on appelle la communication. C'est d'ailleurs philosophiquement un problème qui est posé bien avant Benjamin. À mon avis, il est posé déjà chez Kant à la fin du XVIIIe siècle, justement quand Kant se met à réfléchir sur les questions esthétiques. Hein. Mais bon, restons chez Benjamin. Nous sommes devenus pauvres en expérience communicable. Hein. Donc tout se passe comme si les riches et nombreuses expériences que nous avons ne s'articulaient pas, hein, dans une communication effective, hein. Et même peut-être comme si, dans une certaine manière, beaucoup d'entre nous, au fond, et c'est peut-être ce qui constitue l'expérience urbaine contemporaine, qui n'est pas vraiment une expérience, si vous voulez, vécue, hein, pour qu'une expérience soit vécue, pour qu'elle achève de passer complètement, il faut qu'elle puisse se communiquer. Mais peut-être y a-t-il chez beaucoup d'entre nous, en tout cas c'est ce que Benjamin visait quand il parlait justement des soldats retour de guerre à la fin de la Première Guerre mondiale, renoncement, je dirais, je vais presque dire a priori à la communication. Hein, c'est-à-dire, tout se passe comme si nous vivions des expériences pour lesquelles, d'entrée de jeu, nous éprouvions dans une certaine mesure, mais c'est pas le bon mot, ces expériences comme non communicables. Nous sommes devenus pauvres en expériences communicables. Pourquoi? Parce que nos expériences réelles ne sont pas celles que nous pouvons dire. Parce qu'il y a, on avait déjà évoqué ça dans une des deux séances précédentes à propos justement de la photographie et du décalage que Benjamin pose comme un décalage de principe entre une image photographique et la légende qui la titre et qui en fait ne la titre pas, mais se décale par rapport à elle. Je crois qu'il y avait profondément chez Benjamin cette idée qu'il y a un décalage entre le registre de l'expérience et le registre du langage. Nous sommes devenus pauvres en expérience communicable parce que, au fond, la structure traditionnelle, j'allais dire la structure traditionnelle de la tradition, hein, qui fait que la tradition est une valeur dans la culture. La structure traditionnelle de la mise en commun, cette structure, à l'époque de la reproduction, est touchée. Pourquoi la structure traditionnelle de la mise en commun est touchée? En fait, parce que la notion même, la pratique même de mise en commun est touchée. Parce que, si vous voulez, le commun est là avant même d'avoir à être mis en commun. ce qui est le paradoxe de l'époque. La structure traditionnelle de la communication de l'expérience, hein, qui forme ce qu'on peut appeler justement la tradition, qui fait qu'il y a une tradition dans les sociétés traditionnelles, si vous voulez, et qui fait que les sociétés traditionnelles, au fond, peuvent fonder leur culture sur la narration des expériences vécues. Cette structure, au fond, elle suppose qu'il y a un jour quelque part, ici et maintenant, hein, à un moment donné, ici et maintenant, une expérience qui est vécue et qui, au fond, est vécue, on pourrait dire, dans un premier temps, de manière privée, hein, de manière, si vous voulez, isolée ou particulière. On présuppose ça. Il y a une expérience particulière, et ensuite, cette expérience est communiquée. Et ensuite, étant communiquée, elle devient partagée, elle devient commune. Hein. Ça, c'est la structure, si vous voulez, du récit, de la narration, la structure traditionnelle de la mise en commun et de la communication. À l'époque de la reproduction, selon Walter Benjamin, au fond, l'expérience est toujours déjà, si j'ose dire, au-delà du privé ou du particulier. Elle est toujours déjà partagée. Elle est partagée au moment même où elle est vécue. Alors, l'expérience structurante, ou le cas, si vous voulez, modèle de ce que je suis en train de dire là, elle n'a pas à être mise en commun, l'expérience. Elle est mise en commun au moment même où elle se particularise chez quelqu'un. Elle est déjà mise en commun au moment où elle est prouvée, où elle est éprouvée comme expérience particulière. Alors, l'exemple majeur que prend Benjamin dans l'un des deux textes où figure cette petite expression « nous sommes devenus pauvres en expérience communicable », c'est justement l'expérience de la presse, dont je crois avoir déjà dit quelques mots peut-être lors de l'une ou l'autre des séances précédentes. L'expérience de la presse, on peut la décrire de la manière suivante. Je suis lecteur d'un journal. Hein, donc, qui caractérise d'ailleurs le journal, c'est le mot jour, le quotidien. Hein, c'est-à-dire que de toute façon, le texte du journal, il vaut aujourd'hui pour être périmé demain. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que quotidiennement, chaque jour, le journal renouvelle pour être un journal, effectivement. Donc, déjà comme structure économique, si vous voulez, ça n'est pas fait de textes ou de propositions langagières qui sont vouées à durer. Hein, elles sont au contraire vouées à de rapides renouvellements. Mais laissons cet aspect de côté. Quand je lis le journal, je vis, moi qui le lis, l'expérience de ma lecture comme une expérience privée ou particulière. C'est moi qui lis mon journal chez moi. Dans ma demeure, là où je suis à demeure, chez moi. En fait, cette expérience n'est possible que dans la mesure, elle est matériellement possible, que dans la mesure où elle est, au moment même où je la vis comme une expérience particulière, déjà partagée par d'autres, ailleurs, au même moment. Hein, c'est un exemple majeur de la substitution de la structure ici et là, hein, à la structure ici et maintenant. Donc, non seulement c'est chaque jour, cette histoire va aboutir, comme vous savez, à ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin en mettant beaucoup de guillemets à l'expression, le temps réel. Hein, c'est-à-dire que l'événement est reçu partout. Ici et là, au moment même où il se réalise, au moment même où il se produit, et au moment même où il se produit, il est déjà partagé. Hein? Donc, il n'y a pas à le mettre en commun. C'est sa structure même qui met le commun toujours déjà là, avant, au fond, tout partage, et par conséquent, foncièrement, avant tout récit. Donc, cette époque est une époque dans laquelle le récit n'est plus une forme structurante de la conscience commune, si vous voulez. Je pourrais formuler ça de deux autres manières. Hein. L'une que j'emprunterai à Hannah Arendt, qui, sur ce point, avait entretenu une discussion avec Walter Benjamin avant de publier elle-même, un peu plus tard, sur ces questions-là, ses propres textes, de former son propre vocabulaire et ses propres analyses. Hannah Arendt disait que ce qui caractérise l'époque contemporaine, c'est, si vous voulez, l'envahissement du social, de ce qu'elle appelait le social, dont elle dit à plusieurs reprises que le social, c'est une façon d'être les uns avec les autres qui n'est ni privée ni publique. Dans une expérience sociale, quelque chose de l'expérience privée est rendu impossible. C'est-à-dire, il y a un partage, a priori, de l'expérience. Une autre façon de formuler cette affaire serait de proposer un vocabulaire. Là aussi, c'est moi qui propose cette fois-ci de le traduire, comme je proposais tout à l'heure de donner un sens un peu particulier au mot commun, hein, au commun de l'expérience. Ça serait, pour aller évidemment au-delà des exemples techniques et historiques auxquels Benjamin pouvait se référer, d'évoquer la notion d'audience. Qu'est-ce que c'est qu'une audience? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle une audience aujourd'hui? Donc ce qui est, si vous voulez, la production presse propre d'un espèce d'avatar de la presse tel que l'analysait Benjamin dans les années 30 et qui est la télévision. La télévision, en tout cas sous sa forme hertzienne, parce que peut-être qu'avec, je pense en particulier, si vous voulez, à la télévision à programme. Hein. Donc cette télévision à programme, elle fabrique, si vous voulez, de l'audience, c'est-à-dire une expérience étrange, toujours déjà partagée, toujours en même temps qu'elle est partagée et plus que privée, vécue comme privée. Hein, je vis toujours de façon privée le fait que je regarde la télévision. Et néanmoins, cette expérience privée échappe structurellement à sa dimension d'expérience privée. Elle est, au moment même où je l'éprouve comme expérience privée, une expérience collective. C'est l'audience qui réussit à fabriquer ce que j'appelle, pour ma part, puisque j'avais été sollicité la dernière fois pour oser proposer mon vocabulaire, donc je le fais, ce que j'appelle pour ma part une masse diffuse. C'est les concepts un peu étranges de la masse diffuse. C'est-à-dire que ce que l'époque de la reproduction, finalement, nous invite à penser, qui est assez difficile à penser, à évaluer, à estimer, c'est difficile de faire avec ça, notamment politiquement, je vais y venir pour conclure, c'est ce concept paradoxal, cette notion paradoxale de masse diffuse. C'est-à-dire, il y a le retour, si vous voulez, de même que moi, être privé, être particulier, ayant toujours finalement le sentiment de vivre ma vie chez moi. Je lis la presse, je regarde la télévision, etc. Je suis en train, en fait, à ce moment même, de participer à une expérience collective ou commune. De la même manière, de l'autre côté, la communauté, la collectivité ne s'identifie pas comme telle dans l'audience ou dans l'expérience de la masse diffuse, hein, précisément parce que la masse est diffuse. C'est pas la même chose, si vous voulez, pour parler, là encore, avec des exemples qui vont nous faire remonter à l'expérience historique des années 30, vous allez voir pourquoi. Il faut distinguer, autrement dit, deux expériences de la masse, une qui serait absolument contemporaine de l'avancée des techniques d'enregistrement, la masse diffuse, qui n'a pas besoin de s'assembler pour être. Voilà. Et puis il y a les masses traditionnelles, si j'ose dire, qui justement, ou le mode traditionnel, si vous voulez, de la foule, qui a besoin de s'assembler pour s'éprouver comme tel et se savoir masse. Et il existe encore évidemment des formes, je vais venir à l'enjeu de ces affaires-là dans quelques secondes, des formes de cette masse-là aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un stade de football? C'est peut-être un endroit où précisément, faute de tolérer, de supporter, enfin, l'expérience de la masse diffuse, ou de savoir nous accommoder finalement en tant que communauté de cette expérience-là, parce qu'en tant qu'individu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est passé, nous avons adopté. Mais les communautés n'ont peut-être pas adopté cette expérience. Et alors elles ont besoin, je dirais, d'expériences réactives, pour pas dire réactionnaire, réactif serait peut-être un meilleur mot, qui consiste à s'identifier dans des masses compactes, hein, mais qui au fond sont anachroniques, hein, qui sont archaïques dans une certaine mesure, et en tout cas anachroniques. Hein. Par exemple, ces masses-là, hein, ces masses compactées, pour lesquelles on construit encore des stades de football. Encore qu'il y a un enjeu, hein, dans cette opération-là, puisque l'événement qui se localise dans un stade est toujours déjà lui-même, comme vous le savez, à présent diffusé. Hein, et que finalement, on ne sait pas où est la vérité de l'événement. Hein, c'est-à-dire, est-ce que ça se situe sur le lieu où ça se passe, ou est-ce que ça se situe dans les lieux, dans le fait que c'est diffusé partout. Mais bon, peut-être avez-vous saisi, chemin faisant dans mon vocabulaire, que j'ai mis en question des mots avec lesquels se constitue pourtant pour nous le vocabulaire politique, à savoir le mot de représentation et le mot d'assemblée. Voilà. Est-ce que c'est dans une assemblée que aujourd'hui peut se constituer, je dirais, la définition, et peut-être plutôt que l'identité, l'unité de la communauté, l'unité du commun. Hein. Il y a le commun dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ce commun dont j'ai parlé tout à l'heure ignore sa propre unité. Et quand est-ce que cette unité se réalise? C'est-à-dire, quand est-ce que nous nous réalisons comme un ensemble d'humains, hein, et pas simplement une masse diffuse? Voilà. Quand est-ce que nous nous repérons finalement les uns les autres comme faisant partie, si j'ose dire, ensemble du même monde? Alors, je crois qu'on peut dire traditionnellement, c'est à la politique qu'il incombe de former les phrases, les images, les représentations avec lesquelles nous trouvons justement ces unités. Mais selon quelles modalités? Mais selon quelles modalités? On peut imaginer trois situations. Hein. Je ne vais évidemment pas trancher cette question. Cette question nous appartient. Hein. Moi, je peux en proposer une formulation. On peut imaginer trois situations à l'époque de la reproduction pour la politique. Une situation dans laquelle, finalement, il y aurait une sorte de réaction des formes traditionnelles de la politique, c'est-à-dire une espèce de volonté de retourner pour fixer l'identité commune à des formes qui sont au fond des formes archaïques. Hein, c'est-à-dire, par exemple, c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça, à mon avis, que Walter Benjamin analysait le fascisme dans les années 30. Hein, la constitution de masse compacte s'identifiant comme telle et, si vous voulez, avec un dispositif dans lequel pouvait se figurer le peuple, hein, qui en réalité est un peuple diffus, mais qui, à certains moments, dans des circonstances réactives, se reconfigure, se resserre, en s'assemblant, hein, autour d'un discours qui serait identificatoire, si j'ose ce mot. C'est une solution. Ouais. C'est une solution qui ne peut pas ne pas nier la réalité de la situation existentielle des éléments du peuple. L'autre hypothèse serait des structures qui jouent au contraire de cette structure de l'audience. Hein, donc ça serait, si vous voulez, le devenir télévisuel de la presse qui utilise dans une certaine mesure à des fins profitables la structure d'époque de la masse diffuse, et puis peut-être une troisième solution qui serait à chercher, qui associerait, si vous voulez, les conditions de notre être au monde contemporain, les conditions de l'être au monde contemporain avec des exigences qui évacueraient le fait d'une part de la réaction, d'autre part, comment dire ça, l'œuvre de structure qui profite, si j'ose dire, de la circonstance, hein, comme dans la télévision aujourd'hui. En tout cas, pour marquer des enjeux extrêmement contemporains de toute cette affaire. Je pense qu'on peut entendre comme une espèce de, d'écho, si vous voulez, de résonance lointaine des questions ouvertes par Walter Benjamin, hein, et tout à fait naturellement au-delà de lui-même et de son vocabulaire spécifique, mais on peut entendre comme un écho des questions autour desquelles j'essaye d'avancer là quelques phrases. Le fait qu'aujourd'hui se discute au fond le terme de démocratie représentative, et que d'autres propositions soient faites. Écoutez le vocabulaire, hein, quand on dit démocratie participative, par exemple, on ne dit pas la même chose que représentative. On sent bien, je ne préjuge pas de la qualité de la réponse que je viens d'évoquer, mais le fait que ce vocabulaire arrive parmi nous montre que les structures traditionnelles du partage de l'expérience, supposée d'abord privée, particulière, puis communiquée, rendue publique, partagée publiquement, représentée, identifiée, etc., cette façon de structurer la politique est probablement dépassée par les techniques d'époque. Et nous en sommes là. Voilà. Nous en sommes là, nous en sommes à chercher à la fois les formes et le vocabulaire qui conviendrait pour comment dire, élaborer, hein, une politique à jour, avec à jour dans ses formes, hein, à jour dans ses formes, avec ce que par ailleurs nous avons adopté dans nos vies quotidiennes, hein, dans nos vies quotidiennes qui sont, je répète, des vies toujours déjà partagées. Alors c'est ça que la formule titre de mes trois passages parmi vous envisageait de désigner, hein, ici et là.
Voilà.
Excusez-moi, j'ai pas.
Dans l'annonce, vous aviez dit que vous commenteriez la guerre comme réponse à des avancées techniques dont l'assumer des choses qui sont abordables.
J'ai repris implicitement. Alors, excusez-moi. La guerre, elle est dans la forme réactive. Hein, voilà. Elle est dans la forme réactive, dans la dénégation. Je l'ai repris de façon trop rapide, certainement, et allusive, en faisant un peu tourner la réflexion sur le mot guerre. C'est-à-dire qu'avant d'être une guerre, si vous voulez, déclarée, il y a une guerre, une espèce de guerre mentale dans le refus d'adopter les formes d'époque. Hein. Il y a une culture, si vous voulez, anachronique qui fait la guerre à l'époque. Voilà.
Quand vous dites le refus, est-ce que c'est quelque chose de refusé ou c'est simplement un constat de...
Le quand je dis le...
Le refus de la guerre. Le refus, quelque part, de vivre l'expérience qui nous est proposée à notre époque, dans notre temps, avec notre vie. Est-ce que c'est un refus qui est conscient ou est-ce que c'est un refus d'une chose qui nous dépasse et donc on se construit.
Question difficile. Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolé. Je crois que c'est une question extrêmement difficile. Je crois que tout le problème est là, justement. Je pense qu'il est... Il est quand même extrêmement probable qu'on puisse envisager que ça ne soit pas, comme vous venez de dire, dans le sens où vous avez utilisé le mot là dans votre remarque, que ça soit pas conscient. En fait, je pense que ça veut dire que c'est pas volontaire. Hein? Voilà. Il y a de fortes chances pour que ça soit pas volontaire et que ça soit pas assumé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, si vous voulez, un décalage entre les avancées techniques et les catégories mentales avec lesquels on se débrouille pour analyser le monde. Il y a chez Benjamin, si vous voulez, parmi ses derniers textes, dans ceux qu'il a consacrés à Baudelaire, les notes sur quelques thèmes baudelairiens, il me semble que c'est là qu'on trouverait les conditions de l'analyse de la question que vous formulez, dans lequel il y a d'autres passages aussi d'ailleurs, mais enfin là notamment, dans lequel il évoque quelque chose qui était important chez lui, qui est l'habitude, ce qu'il appelle l'habitude ou la distraction. Alors, c'est un concept difficile chez Benjamin, la distraction. Moi, j'ai mis assez longtemps à me débrouiller avec ça. Bon, je pense y arriver maintenant à peu près. Je pense qu'on peut faire l'analyse, si vous voulez, du distrait. Je ne sais pas si... Je sais que dans un colloque consacré à Benjamin, la question a été posée. On n'a pas obtenu la réponse. Savoir si Benjamin était éventuellement un amateur de films Buster Keaton, par exemple. Vous voyez, le distrait. Alors, le distrait, c'est une forme de conscience étrange, hein, d'un être qui est en fait à deux situations en même temps. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot littéralement, dis. Traction, ça veut dire traction, c'est tiré, dit de deux côtés en même temps. Alors le distrait, c'est celui qui est là sans être là. Ouais. Alors on pourrait dire, dans le sens que, à mon avis, votre remarque invite à dire, il y a des distraits qui sont avec plus ou moins de conscience, si j'ose dire, dans la distraction. Le distrait qui arrive justement à la forme élaborée du comique, comme dans les films de Buster Keaton, c'est précisément que ça devient une sorte de conscience. Il sait très bien qu'il est sur deux endroits en même temps, mais peut-être nous, dans la plupart du temps, nous sommes des distraits malgré nous. Alors, pour Benjamin, la distraction est une forme avec laquelle on peut, je dirais pas amortir, parce qu'il réservait ce verbe, à mon avis, à une autre situation, mais quand même il y a quelque chose de ce type-là. Amortir la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, parce que j'ai beau dire ce que je viens de dire, je persiste, moi, à éprouver comme une expérience particulière mon expérience de spectateur de télévision ou de consommateur du téléphone ou de ce que je persiste à la vivre comme une expérience particulière, alors qu'en fait elle est aussi une expérience commune et partagée. Donc il y a de la distraction qui joue là-dedans, vous voyez, et du coup tout ce vocabulaire là, la conscience, la volonté au sens traditionnel de ces termes, ça marche pas bien pour rendre compte de ce qui nous arrive. Et c'est tout le problème. Je sais pas si je vous ai répondu. J'ai compliqué le problème, mais...
Ce qui se passe juste par rapport à cette image de match de foot à la télé où il y a une masse effectivement compacte, regardée par une masse diffuse, parce que là j'ai bon. C'est justement ça, c'est-à-dire que la masse diffuse, il y a une espèce de double mouvement, bon, je sens comme ça, enfin, comme moi en tant que devant mon poste de télé, on va dire, hein, par rapport que ce soit un match de foot ou d'autres événements qui sont du direct, on va dire. On va parler aussi du direct, qui réunit par ailleurs une masse compacte, quel que soit l'événement. Hein. Tout l'enjeu de celui qui diffuse ce direct, c'est dit dans les mots, hein, enfin, c'est... on est ensemble, enfin, soyons qu'on est ensemble, on partage, vous êtes avec nous sommes des millions, donc on parle de l'audience tout le temps, nous sommes des millions à être connectés en même temps, etc. Alors tout ça, c'est, je veux dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient, etc., que, effectivement, même si je regarde un film au ciné-club, à la télé, n'importe quoi, je sais qu'il y a des millions de gens. Que, je ne sais pas comment c'est pour ça marche pour vous, qui regardent en même temps ce truc-là. Et en même temps, je suis une masse diffuse, je ne les connais pas. Mais là où c'est le piège, c'est justement quand de la masse compacte, on fait des images qu'on renvoie vers la masse diffuse en disant qu'il fait corps, alors qu'il n'y a pas de corps. Mais c'est dit, c'est même pas caché, quoi. C'est pas caché, c'est dit, c'est au contraire. Il y a une grande insistance là-dessus. C'est-à-dire que et ça pose d'emblée un lieu de pouvoir. Ça atomise encore plus la masse diffuse. Oui. Il y a quelque chose de comme ça qui se passe.
Oui. Bon, pour moi, hein. Je pense que c'est un vieux problème un très 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 vieux problème qui est impliqué pour moi dans le terme de diffus. Hein, parce que bon, il y a deux mots qui résonnent là-dedans, il y a diffusion et il y a diffus. Hein, mais si on prend le mot diffusion, en réalité, le mot diffusion, il suppose un centre à partir duquel quelque chose se diffuse, qui est, disons, c'est comme ça que la télévision se conçoit. La télévision a programme, hein, c'est un centre de diffusion. Le diffus, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Pour évoquer des questions qui étaient dans certaines questions posées il y a 15 jours, le diffus, c'est quelque chose qui échappe au contrôle. Hein? Le principe du diffus, c'est l'incontrôlé. Hein, je dis pas l'incontrôlable, mais c'est l'incontrôlé. Bon, alors il y a peut-être c'est peut-être ça le bon côté des techniques. Dont Baudelaire disait lui-même, Baudelaire, hein, je ne fais pas de lapsus, quand il commentait l'avancée de la photographie, il parlait, je le cite, hein, d'un art répandu parmi le peuple, hein, répandu. Donc, moi, je trouve ces mots extrêmement intéressants, extrêmement importants. Donc, ça a toujours été, on a des traces de ça dès l'Antiquité, hein, la hantise des pouvoirs centraux. C'est pas la diffusion, parce que la diffusion, justement, c'est ce qui vise à organiser, mais c'est le diffus. Voilà. Or, les techniques de la reproduction, elles ont, et c'est ça, je pense, que Benjamin a vu et qui l'intéressait beaucoup, elles ont, finalement, en tant qu'elles sont des formes du diffus, hein, des structures du diffus, elles ont une valeur qu'on peut dire émancipatrice. Voilà. Et alors il y a une lutte, du pouvoir, si j'ose dire, contre ça, qui est précisément de contrôler le diffus. Bon, on a eu, récemment, avec l'expérience du référendum sur l'Europe, une belle expérience de nouveau de cette lutte qui est, éminemment objectivement politique, sans être forcément formellement politique, c'est-à-dire sans se représenter comme tel, entre quelque chose qui est un conflit entre la diffusion d'un message politique qui était organisé par une structure qui s'appelle la presse, avec toutes ces variantes, et puis une pratique du diffus. Qui est aujourd'hui possible, Internet, enfin, etc., qui a manifestement pris de court les structures de la diffusion. Hein. Et donc voilà, là on aurait un bon exemple de ce qui se joue autour ou à propos de cette proposition de masse diffuse. Et alors dans le cas du sport, l'exemple qu'on citait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de ce type-là qui se joue, c'est-à-dire on va mettre en place des structures qui emploient les techniques de la reproduction à des fins de diffusion et par conséquent de contrôle du diffus. Hein, quelque chose. Alors que des opérations d'une autre nature, par les modes techniques ou par les moyens techniques qui sont là mis en jeu, sont possibles. Mais toute la question. Je ne sais pas, toute la question du politique me paraît être là, du côté de la saisie ou la ressaisie du diffus. Du diffus, de la diffusion, voilà.
En parlant l'espace de liberté qu'offre Internet et qu'il y a le désir effectivement de contrôle et de contrôle, justement parce que c'est trop, quoi.
Parce que, la condition de possibilité... Une condition de possibilité du peuple à l'époque de la reproduction, c'est un peuple diffus. C'est pour ça que j'avais proposé d'intituler cette troisième soirée « Les états du peuple ». C'est un peuple... il est possible que le peuple soit diffus. Mais un peuple diffus est un peuple que peut-être... alors je ne dis pas ce avec quoi la politique ne sait pas faire, mais ce avec quoi les pouvoirs ne savent pas faire. Mais en même temps, un peuple diffus est un peuple qui ne s'identifie pas lui-même comme tel. Hein? Voilà, il ne s'identifie pas lui-même comme tel. Et ceci vaut pour toutes les structures politiques.
Dans le sens par rapport aux politiques constituantes, enfin, celles qu'on connaît, de l'autre côté aussi, ça sèche. Là, comment on peut faire corps? Tout l'enjeu est là par rapport à la toile, c'est comment faire corps à un moment donné. Et bon, comment faire.
Oui. Sauf que d'une certaine manière, je mets en question, je ne vais pas au-delà, hein, mais je mets en question, il faut au moins poser la question de la nécessité de faire corps.
Il y a une chose là, sur laquelle vous insistez un petit peu et qui est sans doute très très passionnante. C'est qu'au moment où Benjamin écrit, le nazisme monte en puissance. Et le nazisme sera un des premiers, je pense, mais d'ailleurs, si j'étais un des premiers à l'utiliser finalement, et à faire une guerre médiatique, un des premiers à utiliser donc les instruments de reproduction, et donc à transformer les masses, organisées, en masses apparemment organisées, donc elle est mobilisée. D'un idéal frelaté, mais à les utiliser, à les manipuler, en leur donnant elles-mêmes le sentiment qu'elles ont un mouvement interne. Et ça, si vous pouviez revenir un petit peu sur cette expérience qui peut être décrite de manière psychologique, mais aussi à travers un ensemble de manipulations. J'aurais une deuxième question que vous m'avez posée, parce que ça réveille quelque chose en moi. C'est vrai que les anciens combattants disent qu'ils n'ont rien à raconter. Enfin, qui n'ont rien à raconter, et je pense que vous avez raison, parce que c'est au-delà de ce qu'on peut dire. Il y a une chose qui m'a frappé. Bon, j'ai regardé le film de Kubrick, Le Sentier de la Gloire, de nouveau, puis il y a eu avec l'anniversaire de la pointe de Verdun, il y a eu quelques projections de documentaires, et d'une certaine manière, sur ces photos, on n'a plus rien à voir. Tout ce qui peut se donner à voir, j'allais dire en tant que paix, tout cela a disparu. Et ce qui donne à voir, d'un point de vue, évidemment, c'est misère. À voir. Il n'y a rien que vous voyez, il n'y a plus rien. On a un érasement. Et ça, ce que vous souvenez, m'intéresse considérablement. Si vous pouvez revenir un tout petit peu sur ces.
J'entends pas vraiment de question hein, dans ce que vous me dites. Simplement, vous m'invitez à.
Oui, est-ce qu'au moment où apparaissent ces moyens de reproduction et au moment où l'Europe se déchaîne, est-ce que c'est pas le moment où justement il n'y aura plus rien à voir? Et puis dans l'autre question, c'est une chose qui m'a frappé avec mes étudiants, pour nous les grands moments, c'était les moments où l'individu se perdait sous l'idée au profit d'une force collective dans la manifestation. Bon, la manifestation pour eux, ça n'existe pas. Ou alors, si, elle existe peut-être, mais zappée rapidement sur un écran de télévision. Elle n'est pas un lieu vers lequel on se déplace avec l'idée que là, on va vivre quelque chose en soutenant une cause, en étant celui à la fois partie prenante, bon, pas nécessairement acteur survivant. Dans cette place, ce serait très intéressant si vous pouviez revenir sur cette idée du dépassement de soi vers.
Là, je vais enchaîner directement sur ce que j'essaierai de revenir aux deux autres points après, mais je peux enchaîner directement sur ce que vous venez de dire. En tout cas, ça suscite chez moi. Je sais pas si ça répond, mais ça suscite un enchaînement qui est. C'est effectivement un des enjeux du propos que j'essayais de formuler ce soir, que par exemple de poser la question de savoir si la manifestation est une forme politique aujourd'hui à jour. Je dis même pas efficace, hein, je dis simplement à jour. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que pour deux raisons, parce que l'hypothèse sous-jacente qui légitime la manifestation, c'est que dans la manifestation, pourquoi il y a ce mot-là? Parce que dans la manifestation, le peuple finalement est censé se manifester et s'identifie comme tel. Hein. Il s'identifie, c'est-à-dire ça présuppose que le rassemblement est le moment où quelque chose du peuple s'identifie. Voilà. Et s'identifiant, entre dans, comme dirait Jacques Rancière, entre dans le discours politique possible. Peut se figurer, si vous voulez. Hein. Et à partir du moment où c'est entré dans le discours politique possible et où ça peut se figurer, ça peut se discuter. Quelque chose qui n'était pas figuré, qui n'était pas entré dans le discours, devient désormais discutable. Donc, ça fait corps avec les structures de la politique possible. Donc, on est sur cette pensée politique-là, sur cette lancée politique-là. Ce qui est travaillé, à mon avis, par Benjamin, il y aura fallu longtemps pour le lire, ça. C'est une question de ce type-là, qui est une question redoutable, je dirais notamment pour la gauche, pour être très 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 direct, qui est celle de savoir si la manifestation est dans les conditions techniques de la vie d'aujourd'hui. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas une critique absolue de principe de la manifestation. C'est en liant toujours à ce que nous avons adopté en commun de fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça s'appelle la télévision sous diverses formes. Parce que la télévision a un programme, mais il y en a une autre qui est arrivée déjà parmi nous. Hein. Il y a les différentes formes du téléphone, ils ne sont pas la même chose non plus. L'Internet, en fait, etc. En mettant tout ce qui nous forme là, est-ce que la manifestation est une forme encore, efficace de l'entrée en politique d'un certain nombre de formules, d'un certain nombre de problèmes, d'un certain nombre de peines. Je crois que c'est la question. Voilà. Alors, pour les deux autres aspects de votre intervention, alors un peu en vrac, sur ce qui concerne la Première Guerre mondiale, quand Benjamin dit « nous sommes devenus pauvres », il revenait muet du front, hein. Et un peu plus loin, ou un peu avant, j'avoue, je me souviens plus. Enfin, en tout cas, dans le même texte, nous sommes devenus pauvres en expérience communicable. Je pense que, pour être, disons, relativement fidèle au texte, à ce moment-là, il faut dire que ce qui fonde le mutisme des soldats de la guerre, des soldats de toute nation, hein, de la guerre de 1914-1918 pour Benjamin, c'est pas l'expérience même du front qui les a rendus muets. C'est le décalage entre le monde d'où ils étaient partis faire la guerre et le monde qu'ils retrouvaient une fois la guerre finie, ce qui supposait que l'industrie avait avancé pendant la guerre et qu'au fond, ils avaient combattu pour un monde qui n'existait plus. Et c'est ça le mutisme. Voilà. Le mutisme, c'est autrement dit, c'est pour ça que j'ai insisté plusieurs fois autant que j'ai pu dans les séances précédentes pour dire qu'un choc, c'est pas seulement un heurt, c'est même pas essentiellement un heurt. C'est-à-dire, ce qui a profondément choqué ces hommes-là, à mon avis, sur Benjamin, alors je sais que c'est très difficile à dire, d'une certaine manière, ce qui aura choqué la culture, voilà, disons les choses comme ça, autant que la guerre dans sa manifestation manifeste, explicite, c'est que, au fond, je ne sais pas comment dire ça, moi, la vie a continué, voilà. La vie a continué malgré, et c'est ce décalage entre l'expérience au nom de laquelle on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire le langage en fait, c'est toujours du langage, et ce qui se vit effectivement, c'est ce décalage-là qui constitue le choc, hein, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'au fond, le choc qui se traduit par le mutisme, c'est que le langage avec lequel on peut décrire le monde et la réalité du monde avec lequel on vit sont en déconnexion. Alors, quant au fascisme ou au nazisme, je pense que ce sont des réponses fantasmatiques à cette déconnexion-là. Hein, c'est-à-dire, je pense que je pense que Benjamin pensait ça. En tout cas, fantasmatique, c'est pas son vocabulaire, mais probablement celui de dire, il s'agit d'une mobilisation artificielle du peuple. C'est-à-dire, en fait, un peuple qui est en train de se répandre. Le peuple était en train de se répandre dans les années il est en train de se répandre. C'est-à-dire qu'en fait, il était en train de se produire. Il était en train de se réaliser hors des structures de sa représentation ou de sa manifestation, disons politique. Hein, quelque chose de l'expansion du monde ou de l'extension des modes de vie ou qui sont ouverts par ce que j'appelle les avancées techniques, pour éviter le mot progrès qui est trop trop vite évaluateur, si vous voulez. Le monde qui était ouvert par les avancées techniques dispersait dans une certaine mesure le peuple hors de ces structures identificatoires. Et peut-être on peut définir le fascisme et le nazisme comme une façon de réagir à cette dispersion, à cette diffusion. Et effectivement, le mot que vous avez employé, de mobilisation, moi je trouve que c'est un mot intéressant. Et c'est un mot paradoxal d'ailleurs, parce qu'il signifie en même temps immobilisation. Hein, c'est-à-dire que mobiliser le peuple, c'est en même temps l'immobiliser dans une certaine mesure, c'est-à-dire lui faire perdre en vivacité, en dynamisme, en caractère diffus, hein, pour le constituer.
Voilà. Vous oubliez aussi, dans le nazisme, il y avait un esthétisme.
Oui.
Ces grandes manifestations avec ces flambeaux, ces films réalisés par Leni Riefenstahl, ça avait quand même un impact qui était très très fort. Et il n'y avait pas seulement la radio et le cinéma, il y avait aussi cet esthétisme, et que les historiens les soulignent à peine, mais qui est très important.
En tout cas, chez Benjamin, l'esthétisation de la politique, c'est comme ça qu'il définit il le définit exactement comme ça, hein, le fascisme ou le nazisme, par ce terme-là. Esthétisation de la politique. Mais esthétisation ne veut pas dire esthétique, hein, chez lui.
Ça s'adresse bien sûr les trois points. Je vais faire deux petites remarques et poser une question. Alors, les deux remarques, c'est que ce qui me perturbe un peu dans le discours, c'est qu'il est toujours question de la photo, sans distinction des différents types de photos. Pour moi, je n'entends pas le propos avec moi et les façons. S'il s'agit d'un portrait, par exemple, d'un personnage, d'une nature morte, d'un paysage, etc. Même s'il s'agit d'un portrait, je n'ai pas la même attitude par rapport à une photo d'identité. Dans laquelle maintenant je dois faire un sourire d'un certain ordre pour que ce soit là pour mon passeport, ou si c'est une photo que prennent mes amis. Je pense qu'il y a de ce point de vue-là différents statuts de la photo qui font entendre certains des propos que vous avez explicités de façon un petit peu plus diversifiable, peut-être. Bon, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il me semble que justement, la photo est l'une de ces expériences qui fait beaucoup parler et partager. Y compris dans ce que je disais la dernière fois, ça suffit de regarder dans le métro, le fait de prendre une photo, d'un seul coup, on commente la photo, ou même une photo de souvenir aussi, c'est un lieu de parole, c'est devenu un lieu de parole assez privilégié, on échange beaucoup autour de la photo, de façon soit directe, soit périphérique. Et maintenant la question, c'est que, il me semblait, mais peut-être que je me trompe complètement, que la notion d'être au monde, dans mes souvenirs, elle est très liée à Heidegger, à ces notions d'existentiaux et le fait que, par exemple, selon Heidegger, si j'ai bon souvenir, il y a l'idée que pas tellement qu'on agit dans un espace qui serait préconstitué, qui aurait une espèce d'autonomie en lui-même, et qu'à travers notre affairement, on constitue un espace, on constitue ce qui est sous la main, on constitue ce qui est lointain, le proche et le lointain. Et par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que la photo restructure le proche et le lointain, donc reconstruit d'une certaine façon un espace, je voulais savoir si dans votre expression de l'être au monde, il y avait cette connotation heideggerienne ou si c'était totalement indépendant.
La réponse est que ce n'est pas totalement indépendant pour des tas de raisons. On en a parlé d'ailleurs la dernière fois. Hein, je fais, je l'ai dit, une opération de traduction qui a aussi un enjeu, si vous voulez, qui a quand même si c'est doucement et discrètement, un enjeu polémique avec la phénoménologie. Et donc j'essaye de proposer un jeu de langage, si vous voulez, qui fait que les choses puissent se discuter, je dirais, d'une certaine manière, au bénéfice de Benjamin, en disant finalement qu'on peut reprendre le vocabulaire de l'être au monde et le faire résonner dans le sens de ses propositions. Ça demanderait. Il y a des gens beaucoup plus spécialistes que moi, d'ailleurs, pour parler de ces questions-là, mais ça demanderait effectivement des études très très précises, notamment sur ce que savaient l'un et l'autre de l'un et de l'autre dans les années 30. Hein, Benjamin Heidegger, qui ne pouvait pas s'ignorer, ça c'est évident. Ça, c'est absolument évident. Simplement, si vous voulez, la polémique qui ne s'est pas instruite à ce moment-là, au fond, elle nous manque. Il faut l'instruire aujourd'hui, parce que ça c'est une défaillance philosophique grave. Voilà. Et donc, je fais ce que je peux. Voilà. Je fais ce que je peux, puis si vous voulez, dans d'autres travaux, je développe un peu plus rigoureusement et précisément ce genre de questions. Alors sur la photographie, c'est difficile. Là aussi, je pense qu'il faudrait longuement discuter, longuement travailler sur pièce. Bien sûr, il y a des... comment dire, il y a des genres photographiques différents, il y a aussi peut-être des situations de facture de la photographie qui sont, on peut dire, des situations décisives. Hein. La seule façon d'aller peut-être rapidement à une réponse à votre objection, ça serait de citer en substance une phrase de Benjamin que j'arrange quand même un tout petit peu parce que je la généralise. Hein. Elle n'est pas formulée comme je vais dire, mais je pense que c'est quand même... Donc c'est pas au pied de la lettre, mais c'est quand même la lettre du texte de Benjamin. Ce qui est décisif en art, c'est l'attitude de l'artiste à l'égard de sa technique. Hein. C'est-à-dire la façon dont... l'artiste analyse l'appareil avec lequel il travaille et de cette analyse il n'est pas maître, c'est-à-dire un appareil photographique c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui produit d'une certaine manière pour des raisons qu'on pourrait dire mécaniques si vous voulez, hein. Donc analysant l'appareil et ce que, je sais pas, on pourrait dire sa puissance, sa capacité de production, si vous voulez, eh bien l'artiste prend, et c'est ça qui est décisif, dirait Benjamin, une position par rapport à sa technique. Et moi, je vois que deux solutions. Il y a l'emploi de la technique, hein, ou au contraire, le travail dans le sens de la technique. Alors que l'emploi... À la limite, je dirais, pour aller très très vite, qu'on se comporte avec les objets techniques avec le même type de problème qu'on se comporte les uns avec les autres. De même qu'on peut s'employer les uns les autres, ou surtout les uns par les autres, à faire ceci ou cela. Hein. De même, on peut employer des appareils à des fins, si vous voulez, qui d'une manière ou d'une autre, impliquent de la soumission. Voilà. Et puis on peut ne pas passer par la soumission, ni des uns par les autres, ni des objets techniques par nos volontés. Voilà. Alors, il y aurait cette idée-là, je crois qu'en fonction... C'est ça, je pense que Benjamin voulait dire en parlant de ce qui est décisif en art, c'est l'attitude de l'artiste à l'égard de sa technique, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à un employeur de technique ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui travaille avec des techniques pour faire apparaître ce qu'elles peuvent donner. Voilà. Employer un appareil photo et travailler avec un appareil photo pour montrer ce qui est possible photographiquement dans une situation donnée, c'est peut-être pas la même chose. Par exemple, ça pose des problèmes très très concrets qui ont l'air de pas être importants, qui ont l'air d'être et qui sont probablement beaucoup plus importants qu'il n'y paraît. Par exemple, est-ce qu'on recourt à un éclairage artificiel ou pas? Alors peut-être si on passe par l'éclairage artificiel, on rentre dans une logique d'emploi de l'appareil pour obtenir de lui, pour obtenir une certaine image qu'on a déjà préfigurée. Donc moi c'est plutôt par là que je ferai l'analyse critique, pas opposer par exemple le portrait et le paysage ou quelque chose de ce type là, mais poser la question de l'attitude du travailleur, si vous voulez, avec ou contre son appareil, et ça se règle sur des questions de ce type-là, qui sont des questions techniques. Qu'est-ce qu'il en est de l'éclairage? Qu'est-ce qu'il en est du respect de la profondeur de champ? Du respect, oui, de la profondeur de champ. Qu'est-ce qu'il en est des sensibilités avec lesquelles on travaille, de pellicule, je veux dire. Voilà, ce genre de questions. Et là, je pense qu'on peut quand même constituer des corpus d'images qui ne sont pas de même nature esthétique. Je ne sais pas si je vous ai répondu.
Je repense à une phrase de mon père quand j'étais jeune qui disait on trouve toujours son maître.
On trouve toujours
son maître.
Son maître.
Et il disait, et moi je dis maintenant, On est toujours la marionnette de quelqu'un. Donc, j'aime bien penser ça quand je commence à avoir des idées un peu mégalos, je me dis, c'est juste une...
D'accord. Je pense que dans maître, simplement, il y a deux sens possibles. Hein. Il y a le maître au sens du magistère, et puis il y a le maître au sens de maître et serviteur, quoi, la relation de maîtrise. Donc je ne sais pas ce que votre père voulait dire, mais bon, la phrase peut éventuellement avoir deux... C'est-à-dire que la marionnette, elle a un maître... au sens de la maîtrise et pas un maître au sens du magistère. C'est pas forcément le même maître.
Vous savez ce que vous voulez dire ?
Qui vont mon père ?
Dans quel sens ?
Moi, je crois que j'ai compris une chose, c'est que même les plus. Les gens les plus haut placés dans le pouvoir, eux-mêmes sont les marionnettes d'autres. Ouais. Un autre théâtre, beaucoup plus vaste peut-être, mais ils sont quand même des marionnettes. Moi, ça me fait plaisir de penser comme ça. Parce que moi, je me dis, ben voilà, même si je suis petit, etc.
Si j'avais un marteau.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, enfin, c'est pas forcément une bonne idée, mais quand même, ça m'intéresse, c'est si on peut et comment se soustraire. À la maîtrise. Voilà. Je pense que l'émancipation est... J'ai du mal à ne pas associer l'émancipation à la soustraction. Voilà. Et que, plus qu'à l'affirmation de quelque chose. C'est-à-dire pouvoir se soustraire et se soustraire effectivement. Et c'est une façon d'échapper... Mais c'est pas une façon célèbre, quoi, glorieuse d'échapper. Et pourtant, peut-être qu'il y a la réalité là-dedans. Alors, peut-être qu'il y a des moments historiques où c'est pas une réponse suffisante. Mais quand même, bon, réfléchissons-y, quoi.
Monsieur le penseur, à moi, je constatais quand j'ai commencé à avoir la retraite.
Il y a une autre question, hein, vous avez demandé. Est-ce qu'on pourrait dire à propos de la question du poser du récit?
À propos du?
À propos du récit, de la disparition d'un certain type de récit, ou même peut-être du récit lui-même, de la narrativité traditionnelle, est-ce qu'on pourrait dire que peinture et roman sont liés par le même destin?
Le même destin?
Le même destin, oui.
Peinture et roman?
Oui. En tant qu'un romancier a pu se proposer de décrire des peintres, bon, et qu'un peintre a pu se proposer aussi de dépeindre. Ce qu'on appelle la peinture des rêves, la peinture narrative, la peinture d'histoire. Justement, une autre peinture s'est construite contre cette tendance à raconter des histoires.
C'est une question qu'il faut poser à Jacques Rancière, ça.
Vous êtes là ce soir, alors je pense que vous êtes aussi très indiqué pour y répondre.
Moi, personnellement, je pense que les arts sont incomparables. Au sens où, parce que justement, la technique est décisive. Voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où la technique avec laquelle on s'entretient, pour dire les choses de façon un peu contournée, hein, j'évite le vocabulaire, la technique qu'on emploie. Parce que précisément, je pense que ce qui caractériserait la démarche artistique, c'est qu'on n'y emploie pas des techniques. Mais bon, je propose donc cette phrase-là. On s'entretient avec des techniques. Et évidemment, ça suppose, si on s'entretient vraiment avec des techniques, qu'on a un temps de travail qui n'est pas compté. C'est-à-dire que c'est pas un travail qui rentre dans l'économie. Vous voyez, plein de conséquences à ça, quoi, bien sûr. Hein. Ça suppose évidemment la possibilité de se soustraire à des rendements, etc., etc. Bon. Alors, je pense qu'on s'entretient en art avec des techniques. Donc, il y a une conduite avec les techniques qui n'est pas une conduite économique, qui n'est pas une conduite efficace, qui n'est pas une conduite de rendement, qui n'est pas... Mais qui a aussi donc cette conséquence que les techniques variant d'un art à l'autre, au fond, les arts sont incomparables. Et je pense que ce que l'expérience de la peinture et de la littérature, selon moi, nous ont appris, il faut se mettre sur une assez longue période de temps, disons, c'est précisément la soustraction des arts, la soustraction, en tout cas, c'est ça la période moderne pour moi. Hein. Aujourd'hui, je crois que les choses sont en train de redevenir lourdes et compactes et très... Disons, il y a eu un moment, je pense, intéressant de soustraction des arts à leur unité, quoi, ou, et en même temps d'ailleurs à leur identité, qui fait que, par exemple, on ne peut pas dire que la peinture dit quelque chose. Voilà. Et voilà, sa nature technique n'est pas... N'est pas telle qu'elle a un rapport littéraire aux choses, quoi, ou au monde, ou quelque chose de ce type-là. Alors, c'est pas forcément facile à vivre, parce que. Alors, je sais que vous voulez que je dise un mot de Paul Klee, alors je vais dire un mot de Paul Klee. Je pense que c'est ça que Paul Klee disait quand il y a dans son journal, à un moment, il dit ça. Je crois que j'avais déjà évoqué ce texte dans une précédente discussion. Il dit oncle par-ci, oncle par-là, il y a quelqu'un qui passe dans son atelier pendant qu'il est en train de travailler, puis quelqu'un lui dit oncle par-ci, oncle par-là, c'est-à-dire il identifie hein, ce qui dans une phrase, dans un langage qui serait supposé un langage adéquat, ce qu'il a peint, tu as peint, etc. Donc il y aurait une traduction, si vous voulez, adéquate dans une phrase de ce que le peintre est en train de peindre. Et ça, Paul Klee dit, il n'y a rien de plus agaçant et de plus injuste que ça. Puisque, au fond, ça sous-entend que la peinture n'est pas traductible dans du langage. Alors, évidemment, c'est une expérience qui est une expérience difficile, parce que nous sommes pauvres en expérience communicable. Hein. Ça s'inscrirait aussi là-dedans. C'est-à-dire que on est dans le communicable, on n'est sûrement pas dans le communiqué dans cette affaire-là. Voilà. Alors après, il y a des questions spécifiques sur la littérature, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut s'écrire sous le nom de littérature à l'époque de la reproduction, qui soit à jour avec l'avancée de cette expérience que j'ai indiquée. Est-ce que la forme romanesque est une forme d'époque? Probablement pas. Enfin, Benjamin, je pense que vous le savez, se prononcer pour non pas un roman de narration continue, mais des structures fragmentaires, hein, qui veut pas dire que tout ça n'est pas nécessairement populaire, si par populaire on entend identifier comme peuple, c'est-à-dire en fait faisant masse. Mais justement, ce qui nous alerte, j'aime bien ce mot-là, hein, c'est pas de Benjamin, ce qui nous alerte, c'est ce qui rend un peuple alerte, vif, c'est la diffusion du peuple lui-même. C'est-à-dire, peut-être, sa non-compacité. Hein. Mais en même temps, parfois, ce peuple, pour s'identifier, aspire, demande, je sais pas, à son propre rassemblement. Et c'est un paradoxe difficile à soutenir et à éprouver, qui consiste à dire finalement ce dont nous avons besoin pour être alerte, c'est quelque chose qui au fond peut-être fera en sorte que nous ne nous identifierons pas comme alerte ensemble. Hein? C'est la structure du ensemble qui est extrêmement difficile à définir. Surtout aujourd'hui. On a.
Ça, on ne le fait pas, on le fait contre les autres.
J'ai manqué le début, pardon.
C'est pour ça qu'on ne le fait pas entre nous, on le fait par rapport aux autres.
Comment ça
L'Europe, en ce moment, elle est en train de se définir par rapport aux autres de l'extérieur, pas entre nous.
Oui.
Et partout la même chose, il n'y a pas que Sarkozy. Hein,
d'abord.